Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, le fascisme, 100 ans après. Bonjour Marianne Matar Bonucci.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, co-responsable du groupe de recherche sur l'Italie contemporaine à Sciences Po, présidente d'Allarmé, qui est une association d'universitaires et d'enseignants, association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, spécialiste du fascisme. Et vous avez publié l'an dernier aux éditions du CNRS « Totalitarisme fasciste ». Quand les gens vont-ils comprendre que le fascisme n'est pas une aberration de l'histoire, mais une catégorie politique à part entière, ou mieux, un type de régime ? Le fascisme est appelé, hélas, à connaître de nouveaux avatars. Lorsque l'avatar arrive, il faut le reconnaître et savoir l'appeler par son nom. Cette interpellation, on la doit à Bernard-Henri Lévy. Le philosophe exprimait son inquiétude fin janvier dans les colonnes du journal du dimanche. Alors, il est vrai que les signes constitutifs du fascisme sont bien présents aujourd'hui en Europe, encore que dispersés. Autoritarisme, loi liberticide, action violente, antiparlementarisme, antisémitisme, propos et actes racistes. Des éléments qui, rassemblés au sein d'un même projet politique, auraient en effet vocation à participer d'un renouveau du fascisme. Alors, s'il faut donner une date à la naissance de ce système politique, c'est au 23 mars 1919 qu'il faut remonter, il y a exactement 100 ans. Ce jour-là, à Milan, Benito Mussolini crée les faisceaux italiens de combat, première incarnation du Parti national fasciste qui permettra au Duce de prendre le pouvoir en octobre 1922 et d'installer un régime totalitaire. En Italie, la mémoire de ce que furent ces années a fini par s'estomper. Un lent travail de dédiabolisation qui permet à des formations politiques aujourd'hui de se revendiquer ouvertement de cet héritage. Alors le fascisme 100 ans après, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie, Marianne Matar Bonucci, et je voudrais qu'on commence peut-être par observer les occurrences de ce terme de fascisme, en particulier sur les réseaux sociaux, à travers l'actualité française du moment. Fascisme, on le voit utilisé à la fois pour dénoncer certains actes violents de gilets jaunes, mais également pour critiquer la réaction ou certaines des réactions du pouvoir politique en place. Est-ce qu'on peut dire déjà pour commencer que le fascisme, aujourd'hui, quand on en parle, il sert d'abord à disqualifier?
Absolument, c'est devenu une invective, c'est pas nouveau, hein. Ça date pratiquement des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Déjà dans le contexte de la guerre froide, dans les deux camps d'ailleurs, on utilise le mot pour disqualifier un adversaire politique. Alors, ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire que on observe effectivement aujourd'hui en Europe tout un tas de signes très inquiétants pour l'avenir de nos démocraties, mais ce sont autant de pièces d'un puzzle et le fascisme réunit les morceaux du puzzle. Et donc, on n'en est pas là, personne pour le moment n'a de projet politique qui ressemble à ce qu'on a pu appeler le fascisme à partir des années 20.
Alors, on n'en est pas là, mais on s'en rapproche selon Bernard-Henri Lévy, que j'évoquais en ouverture de cette émission. C'est encore le constat qu'il faisait dernièrement. On est encore au mois de janvier dans le journal télévisé de la RTS.
La situation est tellement grave dans l'Union européenne. Les forces de défaisance sont tellement fortes que chacun doit faire ce qu'il peut. Et moi, ce que je peux, c'est en effet cette campagne. Je vais aller dans 20 villes, 21 villes d'Europe, c'est une espèce de croisade pour l'Europe et contre ces populismes qui sont bien souvent des fascismes, de gauche et de droite. Je vais mouiller ma chemise et je vais le faire. J'ai l'impression, vous savez, que c'est un moment historique, que c'est ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants.
Voilà, Bernard-Henri Lévy qui évoquait une tournée qu'il a entamée dans une vingtaine de villes européennes. Bernard-Henri Lévy qui utilise très souvent ce terme de fascisme, pas seulement pour l'actualité d'aujourd'hui. En 2014, dans un article de La Règle du jeu, il l'avait intitulé « Le poutinisme est un fascisme ». Et puis la même année, dans une interview au Figaro, il évoquait le djihadisme, un fascisme non par métaphore, mais par définition. Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande facilité aujourd'hui, Marianne Matar Bonucci, à utiliser ce terme?
Si, non, je pense que ça ne sert pas pas le combat pour la démocratie que de l'utiliser à tort et à travers. Effectivement, il y a assez de manières de caractériser les dangers qui nous guettent sans avoir recours au mot de fascisme. Alors, il est vrai que ça a pris un sens, je dirais, commun, qui est celui d'autoritarisme, d'extrémisme, de suppression de la liberté d'expression. Et ces dangers-là sont bel et bien présents. Mais si on considère, et je crois que c'est ce qu'il disait au début de la première citation, que c'est une doctrine politique, pour le moment, les mouvements qui sont porteurs, car il y en a en Europe de ces idées-là, restent minoritaires. Il n'empêche que même s'ils restent minoritaires, il y a un danger pour la démocratie qui est porté par les nationalistes, par les xénophobes, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes, par les anti-européens.
Et du coup, on peut dire qu'il faut peut-être mieux pêcher par excès de dénonciation d'un fascisme rampant ou d'un néo-fascisme que par excès de relativisme en disant non, ça n'est pas tout à fait ça. Parce que politiquement, c'est peut-être plus porteur et plus frappant, non ? Donc plus inquiétant ?
Non, je ne crois pas. Je pense que ça sert à rien de crier au loup comme dans la vieille histoire quand le loup n'est pas là et qu'en l'occurrence, il vaut mieux nommer les choses justement et dire que Matteo Salvini représente à lui seul effectivement une menace pour la démocratie italienne indéniablement, mais sans être pour autant fasciste.
Est-ce que la nouveauté Marianne Mattar-Bonucci aujourd'hui, ça n'est pas que le fascisme ne relève plus seulement de l'invective, mais que c'est aussi quelque chose qui est désormais revendiqué.
Alors là, il y a en effet quelque chose qui est assez inquiétant, c'est que pendant longtemps, la mémoire de ces régimes restait marquée d'infamie et il était difficile, sauf nostalgique, un peu honteux, enfin plus ou moins honteux, de se revendiquer du fascisme. Et il y a depuis les années 90 en Italie et dans d'autres pays d'Europe des phénomènes analogues, un processus de défascisation du fascisme. C'est la formule est de Gentile, mais elle est très bonne. C'est-à-dire qui est un des grands historiens du fascisme. C'est-à-dire de banalisation, voire de réhabilitation. Très récemment, le président du Parlement européen Tajani, qui est italien, qui appartient au parti de Berlusconi Forza Italia, a fait une déclaration assez sidérante, qui a provoqué ensuite un débat au sein des historiens pour savoir s'il fallait réagir ou pas, justement. Bon, en expliquant que si on enlevait du fascisme les lois raciales, l'alliance avec l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale, il y avait des choses finalement qui n'étaient pas si mal. Bon, donc ça a suscité au sein de, je vous dis, de la communauté des historiens un tollé, parce que on ne comprend pas les lois raciales ou l'engagement fasciste dans la Seconde Guerre mondiale si on ne considère pas le fascisme comme un bloc et ce qui va conduire à l'adoption des lois raciales est présent dès les origines.
Et on ne comprend pas ce qu'est le fascisme si on ne revient pas à son origine, justement. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Le fascisme 100 ans après ». C'est pour parler des formes qu'il prend aujourd'hui, mais c'est bien entendu, puisque vous êtes historienne, Marianne Mattar-Bonucci, de parler de son origine. Alors, même si les dates sont toujours symboliques, mais le 23 mars 1919, naissance, disons, officielle du fascisme, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ?
Alors, ce jour-là, Mussolini convoque 200 à 300 personnes dans une place qui se trouve à, dans une salle, pardon, qui se trouve à Milan, Piazza San Sepolcro. La salle a été prêtée par le cercle des industriels et commerçants de Milan. Et là, Mussolini pose les premiers jalons d'une formation dont il ne sait pas très bien encore ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, dans les mois qui viennent, il s'en désintéressera un petit peu, mais qui est effectivement la première forme du parti fasciste.
Donc cette formation s'appelle les Faisceaux Italiens de Combat.
Voilà, s'appelle Fasci Italiani di Combattimento. Et qui trouve-t-on lors de cette réunion ? Alors, il faut quand même, et ça, c'est un élément à verser au débat sur ce qu'est le fascisme, c'est une réunion qui intervient 5 mois après la fin de la Première Guerre mondiale. Et on trouve, je dirais, 3 ensembles de personnes dans cette réunion. D'abord, des gens qui étaient dans la mouvance qui a poussé à gauche à l'engagement de l'Italie pendant la Grande Guerre, c'est-à-dire les syndicalistes une partie des syndicalistes révolutionnaires, la gauche interventionniste, d'où vient Mussolini, qui était au Parti Socialiste et qui a été exclu du Parti Socialiste parce qu'il ne respectait pas la ligne pacifiste. On trouve un deuxième groupe, ce sont les arditi, les anciens combattants, quelquefois ce sont les mêmes, qui ont combattu, et également des futuristes, quelqu'un comme Mario Carli ou Marinetti, qui est le leader du mouvement futuriste. Mais si vous regardez ce qui sort de cette réunion, ça n'aura rien à voir, et c'est pour ça que l'affaire est compliquée, ça n'aura rien à voir avec ce que sera le fascisme ensuite.
Y compris dans ce qu'on entend de la bouche de Benito Mussolini. Avant de vous laisser répondre, Marianne Matar-Bonucci, je voudrais vous faire entendre, alors non pas Mussolini, mais une interprétation de son discours ce jour-là, donc le 23 mars 1919 à Milan. C'était une interprétation dans le cadre de l'émission Les dossiers de l'histoire sur France Culture en 1967.
L'Assemblée du 23 mars invite les fascistes à saboter par tous les moyens possibles les candidatures de tous les partis. Nous nous permettons le luxe d'être aristocrates et démocrates, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes et illégalistes. Nous jurons de défendre l'Italie. Pour elle, nous sommes prêts à tuer et à mourir.
Ça n'est pas tout à fait le fascisme, mais ça y ressemble quand même beaucoup, non, Matar-Bonucci?
Ça y ressemble parce qu'il y a ce côté en même temps, justement, c'est-à-dire ni vraiment à droite, ni vraiment à gauche. Et ça, Mussolini, en effet, est dans cette stratégie d'une forme de troisième voie. Mais si vous regardez précisément ce que sont les revendications du parti fasciste, il est question de république, il est question de suffrage universel, de droit de vote des femmes. Il est question de suppression du Sénat, des titres de noblesse, de nationalisation des biens des congrégations. Autrement dit, un programme qui est un programme très à gauche. Et en 1921, lorsqu'est fondé cette fois le parti fasciste, eh bien, les éléments les plus à gauche du programme sont abandonnés. Et il est évidemment question de nationalisme. Il est bon de savoir quand même que on est le 23 mars. Dès le 15 avril, les fascistes de Milan vont attaquer le siège de l'Avanti, dont Mussolini avait été directeur quelques mois auparavant. Et il y a déjà quelques morts. Hein, donc le rapport à la violence, effectivement, est présent d'emblée.
Oui, parce qu'on l'entendait, nous sommes prêts à tuer et à mourir. Et dans votre livre, dans l'introduction de votre livre « Totalitarisme fasciste », Marianne Matar-Bonucci, vous écrivez ceci: « Le fascisme ne fut pas la variante ensoleillée du national-socialisme, mais un régime d'oppression et de terreur fondé sur la violence. » Cette violence, elle est constitutive du fascisme.
La violence est constitutive du fascisme. Et l'héritage, la dette du fascisme à l'égard de la guerre n'y est pas pour rien, évidemment. Certains leaders fascistes disent explicitement, quand la guerre s'arrête, nous allons continuer la guerre, nous allons continuer la guerre dans la vie civile. Et c'est ce qu'ils font, alors ce qu'ils vont faire à l'encontre des socialistes. Alors les socialistes qui sont au nid, parce que le Parti Socialiste est resté pacifiste pendant la guerre, à la différence des autres partis socialistes européens. Et mais donc, ce qui est vraiment fondateur de cette identité fasciste initiale, c'est cet engagement dans la guerre. Et c'est ce nationalisme.
Pour quelle raison est-ce que, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une tendance à minimiser cette violence, cette brutalité? Est-ce que c'est parce que quand on compare ce qu'a été le fascisme aux autres, aux deux grands totalitarismes du XXe siècle, c'est-à-dire le national-socialisme et le communisme, le fascisme à côté paraît beaucoup plus inoffensif, disons?
Certainement, il y a eu un effet d'atténuation mémorielle, parce qu'en effet, le national-socialisme est allé beaucoup plus loin, donc. Mais je peux vous assurer que les contemporains voyaient cette violence, les antifascistes. Enfin, non seulement ils la voyaient, mais ils l'ont expérimentée à leurs dépens.
Il n'y avait pas de projet génocidaire quand même, c'est une différence fondamentale.
Alors, il n'y avait pas de projet génocidaire, il n'y a pas de racisme non plus dans le programme fasciste des origines, du fascisme italien. Et le racisme arrive tard, il arrive avec la guerre d'Éthiopie, et l'antisémitisme n'arrive qu'en 1938.
Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée seulement à ce moment-là?
Pourquoi? Alors, j'ai publié un livre il y a quelques années pour tenter justement d'expliquer cela, parce que précisément, cela ressortit de la dimension totalitaire de ce régime, qui a besoin sans arrêt de donner du grain à moudre, pardonnez-moi, aux militants, aux élites, pour maintenir en mouvement, justement, la société politique et la société tout court, d'ailleurs. Et donc, En 38, il n'y a plus d'ennemis intérieurs puisqu'ils sont tous en prison ou en exil, ou très peu en tout cas. Et le rapport entre l'Italie et l'Allemagne s'est aussi inversé. Pendant longtemps, le fascisme a été le modèle du national-socialisme. Et à partir de 35, la relation commence à s'inverser. Et Mussolini s'aperçoit que le totalitarisme se construit beaucoup plus vite en Allemagne. Et à un moment où d'autres pays sont en train de devenir des dictatures nationalistes, il apparaît aussi plus difficile de maintenir cette différence du fascisme qui est l'absence d'antisémitisme. Et donc, je dirais, pour un faisceau de raisons, eh bien, effectivement, pour relancer la machine, pour créer cet homme nouveau qui est au cœur du projet fasciste, les Juifs sont désormais, deviennent des citoyens de seconde zone et des lois raciales sont adoptées.
Donc, le fascisme est bien un totalitarisme, Marianne Matar-Bonucci, même si là aussi, ça a une dimension qui a pu être atténuée avec le temps, ce qui vous semble paradoxal. Enfin, vous relevez le paradoxe, ne serait-ce que du fait des origines de ce terme de totalitarisme. Ça vient de l'italien.
Tout à fait, le mot est apparu dans un contexte italien. D'abord, pour critiquer précisément dans les milieux démocrates chrétiens ce qu'était ce projet de contrôle absolu de ce parti sur la société. Et ensuite, il y a eu une forme d'inversion du stigmate, c'est-à-dire que les fascistes eux-mêmes ont revendiqué le mot. Et donc, c'est un mot de la langue fasciste. En effet, plus d'ailleurs que la langue nationale socialiste, mais Hannah Arendt le disait avec raison, l'intention... Alors, Hannah Arendt ne voyait pas le fascisme comme totalitaire, mais en revanche, elle voyait le national-socialisme comme un totalitarisme.
Pourquoi est-ce que c'est en Italie que le fascisme est arrivé au pouvoir, Marianne Matar-Bonucci?
Grande question. Pourquoi en
parce
Italie
que les conditions
peut-être
sociales,
parce que
politiques font
oui
que...
pour toute une série de raisons. Une des raisons, bon, la guerre a joué un rôle très important. L'Italie a gagné la guerre, mais sans la gagner vraiment du point de vue des nationalistes. Donc il y a des frustrations nationales qui sont très importantes. Et il y a aussi un climat de guerre civile qui va se développer en c'est les années du Biennio Rosso en 1919-1920. C'est-à-dire que dans ce contexte de crise économique et sociale, eh bien, un mouvement ouvrier et paysan très important se développe en Italie avec des occupations de terres, etc. La bourgeoisie a peur, d'autant plus peur qu'est intervenue la révolution bolchévique. Et donc, ce mouvement qui va rester groupusculaire pendant assez longtemps, mais qui va commencer à jouer un rôle de milice de répression du mouvement ouvrier, eh bien, saura trouver des appuis au sein de cette bourgeoisie, donc, pour arriver au pouvoir. Alors, ça, c'est, je dirais, les raisons contextuelles, mais qui sont quand même très importantes. On peut dire aussi, si on inscrit les choses dans la durée, qu'il n'y avait pas de culture démocratique, comment dirais-je, enracinée en Italie, puisque l'unité était récente et le suffrage universel, les premières élections au suffrage universel masculin datent de l'après-Première Guerre mondiale. La loi installant le suffrage universel, c'est avant la Grande Guerre. Donc il n'y a pas cet enracinement, si vous voulez, de la démocratie qui peut exister en Angleterre ou en France.
Alors c'est donc en Italie que le fascisme arrive au pouvoir. Et puisque vous parlez de racines et que vous êtes historienne, Marianne Matar-Bonucci, vous n'ignorez pas qu'il y a une controverse entre historiens autour des racines, et notamment des racines françaises du fascisme. Bonjour Antoine Dulcer.
Bonjour.
Et c'est une controverse qui oppose depuis une trentaine d'années l'historien israélien Zev Sternel a de grandes figures universitaires françaises.
Oui, ce débat, c'est ce que Zev Sternel appelle l'origine française du fascisme, une thèse qu'il expose dès 1983 dans un ouvrage « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France ». Selon lui, notre pays serait, depuis le 19e siècle, le berceau de ce qui est devenu l'idéologie fasciste dans l'Italie des années 20. Une thèse contestée très vivement en France. Pour se faire une idée de ce débat, nous avons retrouvé une archive de France Culture. Zev Sternel est face à René Raymond, le grand historien des droites en France, dans l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut, le 4 avril 1990. On écoute tout d'abord Zev Sternel qui évoque une tradition politique française qui serait, selon lui, à l'origine du fascisme.
Elle est axée sur une vision organique de la société, une société en tant que corps, une société en tant que tribu, une société en tant qu'un organisme vivant dont les individus sont partie intégrale. Une société qui se définit en termes historiques, culturels, raciaux, ethniques. Le dosage varie, mais ces éléments-là se trouvent en général tous ensemble. Eh bien, c'est cette collectivité-là qu'on vient défendre. Et s'il y a aujourd'hui quelque chose qui est intéressant, qui est important dans l'aventure du Front National et de la Nouvelle Droite, c'est cette défense de la collectivité nationale, défense de la France des Français, la France telle qu'on la veut, cette France qu'il faut épurer des éléments étrangers, que le sort, si vous voulez, les migrations apportent.
Voilà, donc un très court résumé de la thèse de Zev Sternel. On écoute maintenant la réponse et les réserves que lui oppose René Raymond. Pour lui, il y a bien eu un fascisme français, mais cela ne suffit pas à faire de la France le berceau du fascisme.
Ce que vient de dire Zev Sternel d'une autre tradition, qui met l'accent sur la réalité historique que constitue le fait national organique, est assurément un élément du fascisme. Est-ce qu'il suffit pour constituer le fascisme ? Voilà la question, et que je crois qu'il y a eu en France des mouvements, il y a eu une droite nationale qui pour autant ne se confond pas avec le fascisme, parce qu'il faut plus, et que je crois qu'il faut en particulier une philosophie politique qui fait de l'État un absolu, ce qu'on a appelé la statolatrie au temps du fascisme, où il y a un caractère totalitaire.
Et voilà, donc poser les éléments d'un débat qui a secoué, il faut le dire, de façon assez violente, le monde intellectuel français. Nous avons d'ailleurs contacté pour cette émission plusieurs historiens qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet en raison d'inimitié provoquée par plus de 30 années de polémique. Alors la France, berceau du fascisme ou non, pour se faire un avis sur le fond et peut-être pour mieux comprendre cette très longue controverse historien, on renvoie à deux ouvrages récents. L'histoire refoulée, La Roque, les croix de feu et le fascisme français, aux éditions du Cerf, ouvrage dirigé par Zev Sternel, et un autre ouvrage collectif dirigé par Michel Vinocq et Serge Berstein, Fascisme français, la controverse, aux éditions du CNRS.
Marianne Matarbonucci, c'est un débat qui agite encore le milieu universitaire français.
Oui, apparemment. J'avais participé à l'ouvrage dirigé par Michel Vinocq, donc j'ai expliqué pourquoi, pour une historienne du fascisme italien, cette thèse était à l'évidence difficile à admettre, même si, encore une fois, il ne s'agit pas de nier l'apport de Sternel dans quantité d'autres domaines et dans l'exploration de l'histoire de cette extrême droite donc française à la fin du 19e siècle en particulier. Ensuite, il y a tout un débat qui a fini par devenir un peu nominaliste. Est-ce que c'est fascisme? Est-ce que c'est pas du fascisme? Il y a, à l'évidence, il y a eu une extrême droite fascisante, des partis tels que le Parti Populaire Français. Alors, il y a débat sur le Parti Social Français et sur la ROC. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des groupes fascisants aussi qui sont très actifs. Mais ce qui est amusant, c'est que même dans l'extrait que vous avez cité, la définition que donne Sternel, c'est la définition du nationalisme. C'est pas la définition du fascisme. Une communauté qui veut épurer de ses frontières les éléments étrangers, c'est du nationalisme.
Alors quittons la France, si vous le voulez bien, Marianne Matarbonucci, et retournons en Italie, mais dans l'Italie d'aujourd'hui, même si on en a dit un mot en début d'émission. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une résurgence du fascisme dans ce pays? Et si oui, par qui ou par quelle formation, par quelle personnalité est-il incarné? On entend beaucoup parler évidemment du vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Est-ce que ce serait lui l'incarnation d'un retour du fascisme ou bien ça se situe ailleurs?
Alors Matteo Salvini est à la tête d'une formation de droite radicale, xénophobe, cela ne fait aucun doute. Son positionnement par rapport au fascisme est ambigu, mais il a donné déjà plusieurs fois des signes de complaisance, puisqu'il sait qu'il peut séduire un électorat encore plus à droite que lui, mais on peut pas en faire un fasciste en l'état actuel des choses, en tout cas. Hein. Et c'est assez difficile de savoir ce qu'il a réellement en tête, à part un projet personnel consistant à exercer le pouvoir de manière autoritaire. Mais les choses peuvent évoluer, elles n'ont cessé d'évoluer dans l'histoire du fascisme italien aussi. À côté de Salvini, vous avez des gens qui sont des héritiers modérés, on va dire, du fascisme, une formation qui était alliée lié avec Forza Italia qui s'appelle Fratelli d'Italia, dont l'une des leaders est la Meloni. Et vous avez d'authentiques groupuscules qui sont cette fois les héritiers donc du fascisme, qui se réfèrent donc au fascisme, en particulier Casa Pound et Forza Nuova.
Vous dites groupuscules, ça veut dire qu'ils ne pèsent pas grand-chose politiquement ?
Oui, ils ne pèsent pas. Ils se sont présentés pour ce qui est de Casa Pound aux élections et ils n'ont même pas atteint 1%. Mais ils ont quand même réussi dans quelques municipalités à avoir des élus. Et ils ont un travail, le symbole de Casa Pound, c'est la tortue. Et il y a un travail qui mise sur la durée, hein, un travail militant qui mise sur la durée et qui est fondé sur la construction de structures d'aide sociale. Hein. Au départ, Casa Pound est né comme un squat, en fait. Et parmi leurs revendications, il y a l'idée d'un prêt social qui permettrait aux gens d'avoir un logement, donc sans payer des intérêts aux banques. Parce qu'évidemment, il y a un discours contre la finance, contre les banques, etc. Et de mon point de vue, c'est un parti qui est... c'est une formation qui est quand même assez inquiétante. Donc, il se réfère à Ezra Pound, il se réfère au fascisme dans sa version la plus extrême de la République sociale italienne. Ils ont pas mal d'adeptes dans les lycées, ils commencent à en avoir dans les universités. Et ils se rendent utiles, par exemple, après le tremblement de terre de L'Aquila. Ils sont allés installer un camp à proximité pour aider les gens, vous voyez. Donc il y a cette dimension un peu scout de toujours prêt à aider les Italiens et en même temps une réhabilitation du fascisme.
Oui, parce que c'est cette réhabilitation-là, elle se passe comment ? C'est-à-dire il y a peu d'opposition, se référer au fascisme, ça n'est pas un tabou en Italie ? Ça ne l'a jamais été, Marianne Tarbonucci ?
Ça ne l'a de fait jamais été. En théorie, ça devait l'être, puisque la reconstitution du parti fasciste, l'interdiction de reconstituer un parti fasciste était dans la Constitution. Mais dès 1946, est créé le mouvement social italien, avec à sa tête Almirante, qui est un ancien de la République sociale italienne, qui a quand même dirigé la revue raciste du régime. Donc cette formation, elle a existé, elle a joué un rôle dans la vie politique, ils ont eu des députés, ils ont évolué dans le sens de la modération. Mais
quand même,
si vous
1946,
voulez,
se dire qu'il y a un parti néofasciste qui
oui,
se crée,
dès 46,
ça paraît ce qui semble totalement incompréhensible.
Oui et non. Ça peut être expliqué par le fait que la démocratie chrétienne a parié justement sur une stratégie d'intégration. C'est quand même un régime qui a duré plus de 20 ans. Hein. Donc, ils ont parié sur une forme d'intégration plutôt que de diabolisation. Et d'une certaine façon, ça n'a pas trop mal fonctionné. Voilà, donc la dédiabolisation du fascisme, elle est quand même à l'œuvre de manière très accélérée depuis les années 90. Et par exemple, avant, pour acheter des objets, des statuettes de Mussolini, ses discours, voire des textes comme Mein Kampf, etc., il fallait vraiment aller dans des librairies spécialisées, à Predappio, la ville natale de Mussolini, mais on ne trouvait pas ces objets dans des magasins. Maintenant, on trouve dans des gares des briquets ou des statuettes à l'effigie de Mussolini. Voilà, cette banalisation est effectivement à l'œuvre maintenant depuis presque 3 décennies.
Dans ce village de Predappio, donc village natal de Mussolini, le maire avait le projet de créer un musée du fascisme, non pas pour en faire la promotion, mais pour en faire un outil de connaissance et pour que son village ne soit pas seulement un lieu de pèlerinage. On en est où de ce projet de musée, Marianne Tarbonucci ?
Le projet a bien avancé et je crois qu'il est toujours... je fais partie du comité scientifique, il y a eu un moment de ralentissement là dans les travaux du musée, mais j'ai vu récemment l'un des principaux responsables qui me disait que c'est en bonne voie, avec évidemment un souci de la part des membres du comité scientifique qui est de verrouiller les choses pour éviter que si il y avait un changement politique à la tête de la municipalité, ce musée ne puisse pas devenir un lieu d'exaltation du fascisme.
Eh ben merci beaucoup Marianne Tarbonucci d'avoir participé à ce numéro de Politique. Je renvoie donc à votre dernier ouvrage, Totalitarisme fasciste, publié l'an dernier aux éditions du CNRS. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Audrey Guély, l'émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. Dans un quart d'heure, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 pour Du Grain à Moudre. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.